France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. N'ayez pas peur du nouveau coronavirus. Voilà ce qu'a lancé cette nuit Donald Trump en sortant de l'hôpital à Washington. Le président américain est pourtant toujours malade. Il a enlevé son masque tout à l'heure avant de rentrer dans la Maison Blanche. Son équipe médicale reconnaît lui avoir administré un traitement en partie expérimental. La campagne présidentielle aux États-Unis pourrait reprendre à un mois de l'élection. Session plénière aujourd'hui pour les députés européens. Elle se tient à Bruxelles plutôt qu'à Strasbourg par peur du Covid-19. Dans le journal de 6h30, vous entendrez les critiques françaises face à cette énième décision. Dans une demi-heure aussi, reportage dans un centre d'information pour les entreprises en difficulté près de Lyon. À l'heure du Covid-19 et de ses conséquences économiques, d'anciens juges du tribunal de commerce aident les patrons qui le souhaitent. Des conséquences qui seront un peu plus visibles aujourd'hui à Paris et dans sa petite couronne. Les bars ont fermé hier soir et pour 15 jours. Les restaurants sont soumis à de nouvelles règles sanitaires strictes. Les congrès sont interdits. Même protocole à Aix et à Marseille. Dans l'arrière-pays niçois, le bilan des crues s'est alourdi avec la découverte hier de 3 nouveaux corps dans les vallées. Les hélicoptères continuent toujours leurs allers-retours pour chercher 8 disparus et pour évacuer les habitants coupés d'eau, d'électricité et de vivres. Le président Emmanuel Macron est attendu en milieu de semaine sur la zone sinistrée. Les députés ont voté hier soir la disposition clé du retour des néonicotinoïdes, des insecticides tueurs d'abeilles. Ils pourraient être utilisés pour sauver la filière betterave en France. Un texte difficile, important, qui ne veut pas opposer économie et écologie, selon le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie. Le projet est toutefois contesté par l'opposition de gauche, certains députés de la majorité et des associations environnementales.
Sur France Culture, au plus près du réel, la série documentaire Perrine Kervran.
Racisme structurel, politique raciste, racisme d'État. Et si au lieu de brandir des mots, on regardait ça de plus près, au ras des vies qui ont vécu ces décisions d'État. Du fichier juif mis en place par Vichy, en passant par les stérilisations forcées des femmes et les déplacements arbitraires d'enfants réunionnais, ou la question des statistiques ethniques, comment cohabitent le politique et la notion de race en France? Eh bien, autant le dire tout de suite, ce n'est pas évident.
LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur franceculture.fr.
There is Ground, Underground. Le nouvel album de Régis Boulard et Louis Solaire. Une architecture électroacoustique où des formes voluptueuses se dessinent et flirtent avec les pulsations. Une nouveauté de la collection Signature Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant avec Bruno David qui nous parle ce matin du narval.
C'est à n'y rien comprendre. Le superbe rhinocéros d'Albrecht Dürer, dessiné en 1515, appartient manifestement à l'espèce indienne, avec des plis qui donnent l'impression d'une armure constituée de plaques. Il a une corne magnifique, mais aussi une seconde corne plus petite, curieusement torsadée et placée entre les épaules. Bon, la gravure a été exécutée sur la foi de témoignages transmis depuis le Portugal, première fois que l'Occident contemplait un rhinocéros depuis l'époque romaine. Ceci explique sans doute cela. Mais quel animal a pu inspirer une corne torsadée? Car cette torsade très serrée n'a rien à voir avec celle des chèvres ou des bouquetins. Il faut aller chercher la réponse dans le Grand Nord et dans quelques légendes fort anciennes. Je vous propose de commencer par les légendes. Les premières mentions d'un animal mythique porteur d'une corne remontent à la civilisation de l'Indus. Elles ont été transmises via l'Antiquité grecque jusqu'à l'Occident chrétien. Cet animal, vous l'avez deviné, c'est la licorne. Les traditions anciennes semblent associer la licorne au rhinocéros ou à l'antilope, voire aux deux. L'Occident chrétien, n'ayant connu ni l'un ni l'autre, la licorne médiévale est représentée comme une sorte de cheval aux sabots fendus, comme ceux des antilopes, et portant une corne au front, au même endroit que celle du rhinocéros. Tant et si bien que certains attribuent l'origine de la légende à un rhinocéros géant fossile, nommé la licorne de Sibérie, Elasmotherium sibiricum. Une espèce qui aurait hanté les steppes eurasiennes où elle aurait pu croiser les humains. La légende de la licorne proviendrait-elle alors du fond des âges préhistoriques? Hypothèse confirmée par un dessin paléolithique de la grotte de Roufignac qui montre un rhinocéros à cornes frontales gigantesques, interprété comme un Elasmotherium. L'origine de la licorne est éclaircie. D'ailleurs, ne vendait-on pas dans l'Antiquité de la poudre de corne de rhinocéros pour de la corne de licorne ? Éclaircie, pas tout à fait, car un détail cloche. Les représentations médiévales ornent la licorne d'une corne torsadée. Or, aucun rhinocéros n'a jamais eu de corne torsadée. Sauf celui d'Albrecht Dürer. Fait encore plus troublant, cette corne torsadée existe vraiment. Mais sans son animal propriétaire, le bâton pastoral de Saint-Bertrand de Comminges, au XIIe siècle, est en effet une corne bel et bien torsadée. Étrange. Passons aux eaux froides du Grand Nord. Au XVIIe siècle, les explorations audacieuses se multiplient. Et en 1704, l'énigme trouve sa solution biologique. Le lien entre ces cornes de légende et la licorne des mers, en d'autres termes le narval, est établi. Le narval, Monodon monocéros, est un cétacé de l'océan glacial arctique. Les mâles sont munis d'une dent horizontale unique, d'une longueur de plus de 2 mètres. Anatomiquement, cette dent est une incisive supérieure gauche. Détail crucial, la surface de la dent est torsadée, comme celle que l'on voit sur les dessins médiévaux de licorne. Conclusion, on a donc bien mis une dent de narval sur la tête d'un cheval pour récupérer un ersatz de rhinocéros.
Vous écoutez les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Je n'aime pas la musique, aurait déclaré un jour Pablo Picasso à une journaliste française. Le célèbre peintre est pourtant honoré en ce moment à la Philharmonie de Paris, qui expose 250 de ses œuvres en lien avec la musique. Toiles, sculptures, gravures, dessins, notes et même sa collection privée d'instruments de musique. L'exposition « Les musiques de Picasso », c'est jusqu'au 3 janvier 2021. Pour nous en parler, l'historienne de l'art et commissaire de l'expo, Cécile Godefroy, est l'invitée du Réveil culturel. Bonjour Cécile Godefroy.
Bonjour.
Le Réveil culturel. Mardi, expo.
Pablo Picasso n'aimait peut-être pas écouter de la musique, mais il aimait la voir et la représenter, c'est ce qu'on se dit à la sortie de l'exposition, puisque les musiciens, les instruments de musique sont présents dans toutes les époques du grand maître. Pour revenir à la fameuse déclaration de Picasso, ce serait bien de la remettre dans son contexte. Ce qu'il a dit vraiment à la journaliste Hélène Parmelin, au fond, quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien, on parle musique. Tout devient musique. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas la musique. Remise dans son contexte, cette phrase a du sens. Cela ne veut pas dire qu'il n'aimait pas la musique.
Non, tout à fait. Ce qu'il pointe du doigt, c'est au contraire l'abstraction qu'il rejetait en bloc. Pour lui, la peinture abstraite n'existait pas. Et dans cette citation, ce qu'il dit surtout, c'est qu'il ne supportait plus ces associations systématiquement faites au XXe siècle entre l'art abstrait et la musique, prenant la musique comme point de justification de l'abstraction. Et Picasso fait justement tout l'inverse, hein, il se situe à rebours de cette posture moderniste qui justement a choisi l'immatérialité de la musique pour s'orienter vers l'abstraction et refuser finalement le sujet en peinture. Lui au contraire, ce qui l'intéresse, c'est sa matérialité, c'est la manière dont elle s'incarne en un corps, en un objet, donc un instrument de musique, ou en un lieu, donc une scène de danse, une scène de bal, une scène d'orchestre.
Depuis son enfance à Malaga en Espagne, jusqu'à la fin de sa vie, hein, puisque toutes les périodes sont présentes dans cette exposition, quel genre de musique il aimait Picasso ? Je peux vous la poser cette question?
Bien sûr, oui.
Parce que vous avez vraiment travaillé, Cécile Godefroy, d'ailleurs, à partir de la fameuse phrase, comme pour relever un défi et pour dire que la musique était quand même très présente, et depuis l'enfance de Pablo Picasso.
Oui, tout à fait, c'est ce que démontrent en premier lieu les œuvres du peintre qui, dès l'époque espagnole, dès Barcelone, sont emplies de figures de musiciens, des musiciens qu'il côtoyait d'ailleurs directement, à l'image de Juan Gay, qui était un musicien du Quatregats, jusqu'au dernier peintre musicien qui peuple ces tableaux réalisés à Mougins. Donc la musique est en effet très très présente, et ce que l'on voit bien au travers de cette exposition, enfin en tout cas ce que l'on a essayé de montrer et de donner à voir et entendre, eh bien c'est que les musiques qui intéressaient Picasso, c'était des musiques populaires, des musiques qu'il pouvait entendre autour de lui.
Pas toujours, hein. Être l'ami d'Éric Satie ne faisait pas de lui non plus un amateur
non, là,
de cabaret.
Non, tout à fait. Là, c'est une parenthèse dans sa vie, dans sa carrière, puisque lorsqu'il a répondu à l'invitation de Serge Diaghilev et de Jean Cocteau pour collaborer à la création d'un ballet, le ballet Parade, et qui va en effet donner lieu à plusieurs collaborations entre 1917 et 1924. Mais c'est vraiment un moment à part, parce que si l'on regarde bien toutes les amitiés tissées et toutes les musiques qui sont présentes dans la peinture, dans l'imaginaire musical de Picasso, on voit qu'elle se rattache plutôt à la musique de cirque, la musique de corrida, la fanfare, une parade dans la rue. Donc,
Puis surtout, les gitans, très présents dans cette exposition.
Oui, la musique gitane qui est présente dès les débuts à Malaga, où et cet amour de la musique gitane lui vient donc de sa famille, bien sûr de sa nationalité. José Ruiz Blasco, le père de Picasso, qui était connu comme peintre, qui l'a formé d'ailleurs aux Beaux-Arts, était aussi un grand passionné de musique flamenca et de musique gitane. Et c'est probablement lui qui l'aurait entraîné dans les quartiers gitans pour écouter justement ces manifestations chantantes, musicales, dans les rues de Malaga.
D'ailleurs, cette exposition commence par cette section, c'est-à-dire sa jeunesse en Espagne, les musiques d'Espagne.
Oui, le parcours de l'exposition est chronologique, et nous voyons d'ailleurs au travers des 9 sections qui dessinent le parcours combien le rapport de Picasso à la musique évolue en fonction des périodes. Et bien sûr, nous ne pouvions couvrir l'exposition avec les musiques d'Espagne, là aussi au pluriel, comme le titre de l'exposition, puisque ces musiques sont extrêmement variées et diverses. Nous ne pouvions pas toutes les aborder, mais nous évoquons bien sûr la musique flamenca, le Cante Rondo, ou encore des danses et des fêtes populaires locales, telles que les Verdiales de Malaga ou la Rota aragonaise.
Autant de masques, de toiles qui rappellent cette période.
Oui, nous ouvrons l'exposition d'ailleurs et cette section avec la présence de 2 tambourins peints par Picasso lorsqu'il était à Barcelone et qui montrent que la présence de la musique pouvait se faire aussi déjà par l'instrument et les instruments notamment qui étaient présents chez Picasso.
D'ailleurs, la question qu'on se pose, c'est comment Picasso, qui avait cette collection d'instruments de musique, et vous les exposez à la Philharmonie, comment lui, qui a travaillé aussi, qui a peint sur des tambourins, pouvait ne pas du tout pratiquer de musique, parce qu'il n'en faisait pas de musique?
Non, a priori, en tout cas d'après les témoignages qui nous ont été livrés, il ne jouait pas d'instrument, il ne lisait pas la musique, il ne l'écoutait pas d'ailleurs dans ses ateliers, ni...
C'était pas Chagall, non?
Non. Et ni Paul Klee, ni Henri Matisse. Mais par contre, les instruments étaient très présents. Mais comme ils étaient d'ailleurs présents dans de nombreux ateliers de peintres, si l'on prête attention justement à toute l'histoire de la peinture occidentale, et notamment depuis la Renaissance, on voit bien que les peintres étaient fascinés par la présence de ces instruments de musique, hein, qui constituait une sorte de défi à représenter en peinture.
y compris dans sa période cubiste, ou je dirais même plus, surtout dans cette période-là.
Voilà, y compris et surtout, c'est à ce moment qu'apparaissent d'ailleurs les instruments de musique dans l'atelier de Picasso, une présence qui est attestée par quelques photographies que nous présentons d'ailleurs dans l'exposition, et cette présence coïncide avec un intérêt très fort porté à l'instrument, qui du coup efface en quelque sorte la figure du musicien que l'on trouvait dès l'époque de Barcelone et qui s'efface progressivement au profit de cet instrument. L'instrument qui va prendre toute la place et qui va en tout cas devenir un objet, sujet d'attention très particulier de la part de Picasso, mais aussi de la part de Georges Braque, l'acolyte, le compagnon de cordée de Picasso. Et qui a cette faculté qui de s'animer quand on le touche et d'évoquer un imaginaire très puissant, plus puissant certainement que qu'un verre ou qu'un compotier, qui sont d'autres sujets tout à fait cubistes traités par Braque et Picasso dans ces mêmes années.
Avant d'évoquer les tableaux célèbres de Picasso exposés dans le cadre de cette exposition consacrée aux musiques de Picasso sans rapport avec les instruments de musique. On peut l'interroger, Cécile Godefroy. Pourquoi la guitare? Est-ce que c'est parce qu'il est espagnol et que la guitare est l'instrument de la musique flamenco en Espagne, ou est-ce que c'est plutôt les formes de la guitare?
Certainement les deux, puisque en effet, on le voit bien dans cette période cubiste, Picasso s'intéresse essentiellement aux cordes. Tout d'abord la mandoline, et puis très rapidement la guitare. La guitare, en effet, la guitara renvoie Picasso à ses origines espagnoles et à toute la musique gitane. Donc elle occupe une place d'autant plus importante dans l'imaginaire du peintre. Ce sont très certainement et surtout les formes de ces instruments qui fascinent et qui interrogent Picasso. Des instruments qui sont à la fois pleins et creux. Des instruments donc comme la guitare avec donc ses hanches sensuelles, la verticalité du manche, le rond de la rosace qui constituent donc des éléments plastiques que Picasso va interroger, décortiquer pour mettre complètement l'instrument à plat, ce que l'on voit dans les carnets de dessin de 1912 par exemple, ou qu'il va reconstituer à sa manière dans les premiers assemblages de 1912 également.
Abrazadas el me condena, a mí el querer me envenena, a mí me mata la pena.
Et on écoute beaucoup de musique dans cette exposition, les musiques de Picasso à la Philharmonie de Paris. C'est au Parc de la Villette jusqu'au 3 janvier 2021. On peut même acheter le disque à la fin du parcours. On vient d'écouter d'ailleurs un extrait, Cécile Godefroy, qui renvoie aussi au pays de Picasso.
Oui, un extrait de Manuel de Falla. Manuel de Falla qui est présent dans l'exposition au travers du ballet Tricorne, qui marque la collaboration de Picasso, une nouvelle collaboration de Picasso avec les ballets russes, dans un ballet chorégraphié par Léonide Massine et mis en musique par Manuel de Falla.
Et puis, il y a cette période où Picasso découvre la France et découvre aussi ses cabarets.
Oui, il découvre Paris relativement tôt, hein, puisqu'il effectue son premier voyage en 1900.
Donc, la belle époque, c'est l'époque des cafés-concerts et des cabarets.
Oui, parce que donc il rejoint la communauté de d'artistes catalans expatriés qui vit principalement autour de la butte Montmartre. Donc il fréquente ces quartiers et les lieux de vie nocturne qui lui permettent de plonger dans cette vie de bohème qu'il fantasme déjà depuis plusieurs années, depuis Barcelone, et qui lui offre de se rapprocher de ces grands peintres qui l'intéressent et que sont notamment les post-impressionnistes et tout particulièrement Degas et Toulouse-Lautrec.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Pour rester dans le domaine musical, il va rencontrer des grands musiciens, Picasso. Est-ce que ces rencontres vont avoir une incidence sur son œuvre artistique ?
Oui, très certainement. Alors les amitiés musicales de Picasso sont nombreuses, hein, puisqu'elles débutent assez tôt. D'ailleurs, elle débute à Malaga finalement, et, au sein de sa famille. Elle se prolonge à Barcelone avec donc les musiciens et les compositeurs qui fréquentent le Quatregats. On peut mentionner par exemple Ricardo Vignès. Et puis, en effet, elle constitue une sorte de fil conducteur tout au long de sa vie, qui montre que Picasso était très proche des poètes et des musiciens tout au long de sa vie. Et en effet, il y a cette parenthèse dont nous parlions tout à l'heure, un peu exceptionnelle dans la vie et l'œuvre de Picasso, où l'artiste est sollicité par les ballets russes, entre autres, pour collaborer à la création de plusieurs ballets. Et il va donc travailler directement avec Erik Satie, Igor Stravinsky ou Manuel de Falla, dont nous venons de discuter. On sait qu'il était très proche de ses compositeurs. Je pense qu'il admirait.
Et quelle était sa contribution ?
Il a réalisé les décors, les costumes et les rideaux de scène de plusieurs ballets, et notamment des ballets que nous présentons dans l'exposition, que sont Parade en 1917, avec une musique d'Erik Satie, Tricorne, donc musique de Manuel de Falla, Pulcinella, Stravinsky en 1920, et Mercure à nouveau, qui lui permet de retravailler avec Erik Satie en 1924.
Et puis ce tableau qui joue vraiment le rôle d'un aimant dans cette exposition consacrée aux musiques de Picasso, Les joueurs de pan. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette œuvre continue à nous fasciner, Cécile Godefroy ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Est-ce que parce qu'elle renvoie à l'Antiquité ? Est-ce que parce qu'elle est très très mystérieuse ? Ou est-ce que parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre de représentation venant de la part de Picasso ?
Oui, c'est un petit peu tout ça réuni, vous avez parfaitement raison. Tout d'abord, c'est un tableau de grand format et que l'on a tendance à oublier puisqu'on l'a vu quand même beaucoup reproduit. Je crois que la présence de cette peinture dans l'exposition constitue un moment esthétique assez fort puisque nous sommes confrontés à ces grandes dimensions, cette grande peinture que Picasso réalise en 1923 à son retour du Cap d'Antibes à Paris. Et qui constitue comme une sorte de souvenir empreint de nostalgie de son séjour passé au bord de la Méditerranée. Et nous sommes d'ailleurs hein, dans ce cadre, dans cette espèce de décor de théâtre méditerranéen, devant lequel posent ces deux personnages, deux adolescents qui sont peints un peu à la manière de Cézanne, assez massifs, au regard peu expressif et qui ne dialoguent pas ensemble. D'où aussi cette forme d'intrigue dans le tableau. Nous avons ce joueur de pan qui nous invite finalement à rentrer dans un tableau, mais où il se passe assez peu de choses.
Donc c'est un tableau qui conserve son mystère.
Oui, je crois. Et puis, si l'on prête attention à la flûte de Pan et donc à cet imaginaire musical auquel nous renvoie le tableau, on a presque l'impression que la musique est étouffée, elle est presque muette. Ce qui ne sera pas du tout le cas de toutes ces œuvres que Picasso réalise à partir de 1946, quand il quitte Paris pour s'installer dans le sud de la France. Donc il retrouve sa Méditerranée en quelque sorte et replonge en pleine antiquité, et là s'ouvre une période absolument merveilleuse, remplie de bacchanales, de joueurs et de joueuses de tambourins, de danseuses effrénées, de faunes musiciens, de joueurs de diaule, où s'exprime une véritable joie de vivre.
Et cette collection d'instruments, c'est une collection d'instruments qui ont appartenu donc à Picasso. Il y a au moins une vingtaine d'instruments. Est-ce que c'est toute la collection de Picasso qui a été récupérée pour cette exposition à la Philharmonie?
Oui, nous avons réussi à réunir donc 22 instruments de musique qui proviennent de différentes collections, mais ces instruments ont tous appartenu à Picasso. Ils ont été d'ailleurs restaurés et étudiés par le Musée de la Musique à l'occasion de cette exposition pour être présentés et réunis pour la première fois dans une exposition. Donc la présence de ces instruments constitue aussi un événement et bien sûr cette présence se justifie complètement par rapport à notre sujet pour montrer si besoin était combien les instruments par leur matérialité, par leur forme ont pu fasciner Picasso.
Voilà, ça fait 2 ans qu'on célèbre Picasso à travers des expositions, plein d'expositions en Méditerranée. C'est vrai que choisir le thème la musique et Picasso, les musiques et Picasso, ce qui était le moins évident et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est peut-être une des meilleures expositions consacrées à Picasso. Comme quoi, vous avez relevé le défi.
Merci.
Ça ne devait pas être évident au début.
Non, mais c'était une aventure collective, je tiens à le souligner. Nous avons commencé à en discuter dès 2016. Donc, cette exposition est le fruit d'un travail de 4 années de recherche qui ont associé, bien sûr, la Philharmonie, mais aussi le Musée National Picasso Paris, la famille de Picasso et un grand nombre d'historiens, de musicologues, de spécialistes en organologie qui nous ont aidés à construire notre sujet.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
On ne pouvait pas ne pas passer Carmen pour parler de cette exposition, les musiques de Picasso. C'est à la Philharmonie de Paris, Parc de la Villette, jusqu'au 3 janvier. Merci Cécile Godefroy d'être venue. Je rappelle que vous êtes historienne
Merci
de l'art et que vous êtes la commissaire de l'exposition. Et puis jusqu'au 23 janvier également à Lyon, et si vous ne pouvez pas venir à Paris pour voir les musiques de Picasso, une autre exposition autour de l'œuvre de Picasso, Baigneuse, Baigneur, c'est au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le Réveil Culturel. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée.
Thank you. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les chemins de la philosophie revisitent les classiques. Bibliothèque Rose, Bibliothèque Bleue, Adèle Vendrette.
Et si ces livres que nous avons lus enfants étaient en fait destinés aux adultes? Pourquoi la petite Sophie de la comtesse de Ségur est-elle malheureuse? Le petit Nicolas a-t-il bien vieilli? Peut-on tout dire aux enfants aux côtés de Roald Dahl? Et enfin, Marcel Pagnol, nos parents sont-ils toujours nos héros?
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. France Culture présente le portrait Boris Charmatz dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Jusqu'en janvier, dans près de 10 lieux franciliens, découvrez l'œuvre de celui qui fait de la danse un terrain de jeu sans limite. Au programme, des spectacles brouillant les frontières, entre projets monumentaux et solos, des ateliers ouverts à tous et un événement de clôture. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Comment aider les entrepreneurs à optimiser leurs recettes ou leur chômage partiel? Des centres pour entreprises en difficulté offrent bénévolement leurs services en ce moment face à la crise économique. À l'heure où les bars ferment à Paris, où les restaurants se plient à des strictes mesures sanitaires dans les grandes métropoles, nous sommes allés dans l'un de ces centres à Lyon. Reportage dès le début de ce journal. Direction ensuite Bruxelles où se tient la session plénière mensuelle du Parlement européen. Strasbourg a une fois encore été écarté par peur du Covid-19. Engie valide l'offre de reprise de Suez par Veolia. Pour reprendre tout le capital toutefois, la route est encore longue et semée d'embûches, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, compte rendu de l'audience d'hier au procès des attentats de janvier 2015, un premier accusé s'est exprimé. Il affirme qu'il ne savait rien des projets d'attentats. Les bars ont donc fermé à Paris et dans sa proche banlieue hier et pour au moins 2 semaines. Le temps de freiner l'épidémie de nouveau coronavirus, voilà ce que disent les autorités. Les restaurants, eux, peuvent rester ouverts avec un protocole strict, ce qui peut quand même, selon les professionnels, freiner leur économie. Pour les entreprises en difficulté, justement, les CIP sont pris d'assaut en ce moment. Il s'agit de centres d'information pour les entreprises en difficulté qui aident les patrons bénévolement. Anciens juges du tribunal de commerce, experts comptables, avocats, tous reçoivent en toute confidentialité et proposent des solutions aux entrepreneurs pour éviter la faillite. Près de Lyon, dans la Loire, à Roanne, une région riche en PME et en TPE, le CIP joue pleinement son rôle en ce moment. C'est un reportage de Mathilde Imberti.
Asseyez-vous, asseyez-vous.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels. Le patron de PME peut se confier.
Donc il y a 4 ans, donc, j'ai monté ma société de VTC. Tout allait très très bien, jusqu'à ce que nous arrive le Covid, puisque notre clientèle est essentiellement axée sur l'homme d'affaires, les touristes, et essentiellement les touristes américains et russes.
C'est un ancien président du tribunal de commerce qui conseille. Guy Delorme a monté l'antenne rouennaise du Centre des entreprises en difficulté.
Eh bien, je pense que notre rendez-vous a été marqué par le fait qu'il ne fallait pas perdre confiance, parce que, effectivement, les problèmes étaient pris très en avant.
Moi, je n'ai pas voulu reporter mes charges. On a, par contre, mis en place le report des prêts pour les voitures. Ce sont quand même des crédits assez lourds tous les mois.
Et la société vivote en attendant des jours meilleurs. Le Covid a, par contre, été fatal à d'autres.
On faisait de l'export de bière artisanale française au Royaume-Uni. Le Brexit a été très compliqué et puis quand le Covid est arrivé, on n'a pas vraiment pu lutter avec nos petits moyens, nos petits bras, nos petites armes. On a tout arrêté en fin de compte.
Ce qu'il fallait lui proposer, c'est quels étaient les meilleurs moyens d'arrêter cette activité puisqu'il n'y avait pas de solution. Et vous féliciter pour ce que vous avez fait parce que c'est bien quelqu'un qui entreprend. Puis peut-être plus tard de repenser à quelque chose d'autre. La vie commence pour vous, vous êtes très jeune.
Merci beaucoup.
Car il s'agit aussi de remonter le moral des entrepreneurs en période trouble.
Un reportage de Mathilde Imberti. Sachez que dans une demi-heure, nous nous intéresserons au télétravail pour les entreprises toujours debout. Changement introduit par la crise dans le monde de l'entreprise. Le Covid-19 et ses conséquences encore, elle nous emmène maintenant à Bruxelles où se réunissent comme tous les mois les députés européens en plénière. À Bruxelles donc et non pas à Strasbourg comme c'était le cas avant l'épidémie. La ville reste toujours rouge selon le reste de l'Europe et cela ne plaît pas à Emmanuel Macron et au député français Pierre Benazet.
Dans les ascenseurs du Parlement européen, il est recommandé de ne pas parler par précaution sanitaire. Dans l'hémicycle, en revanche, tout le monde s'exprime. Enfin, les députés qui ne sont pas en télétravail. Mais pour Anne Santerre, eurodéputée Les Républicains, Emmanuel Macron aurait dû taper du poing sur la table bien plus tôt pour défendre Strasbourg. D'autant que le Covid y est moins présent qu'à Bruxelles.
Strasbourg est gravé dans le marbre, dans les traités. Et à un moment donné, si le Parlement ne respecte pas les traités, la France doit pouvoir engager un recours devant la Cour de justice. Nous devons donner l'exemple, nous, le Parlement européen, on impose des législations, nous devons nous-mêmes respecter les traités.
Mais le Covid relance le débat sur le long terme. Les opposants à Strasbourg remettent sur le tapis leurs arguments sur le prix de la transhumance mensuelle, l'importance d'être au cœur des débats ou bien le coût écologique. L'empreinte carbone serait en fait négligeable selon un récent rapport interne. Christophe Grudler, eurodéputé En Marche.
La bulle bruxelloise, c'est pas le travail parlementaire. Hein. La bulle bruxelloise, c'est confort, la Commission, le Parlement, tout le monde ensemble, le Conseil, et puis finalement les députés font pas leur travail. Quand ils sont à Strasbourg, eh bien au moins ils peuvent faire le travail en prenant une distance avec la Commission, une distance avec le Conseil européen, et donc on peut mieux agir et mieux défendre ses dossiers.
Et tous ont décidé de se serrer les coudes dans les couloirs du Parlement européen. Rencontrer un eurodéputé français défavorable à Strasbourg relève de la gageure.
Pierre Benazet qui est donc à Bruxelles pour France Culture. Encore malade du SARS-CoV-2, Donald Trump a quitté cette nuit l'hôpital. Dès son retour à la Maison-Blanche, le président américain a pourtant retiré son masque et appelé les Américains à sortir avec prudence. Dans une mise en scène savamment orchestrée, il promet de reprendre bientôt la campagne électorale pour la présidentielle dans un mois. Vous l'entendrez dans le journal de 7h de France Culture. Avant cela, il est 6h35 et Suez sera bientôt racheté par Veolia. Une partie en tout cas, car le conseil d'administration d'Engie a accepté hier la proposition de Veolia, à savoir lui racheter les 29,9% des parts que Engie détient dans Suez. Montant de cette transaction, 3,4 milliards d'euros. C'est maintenant à Veolia de lancer une OPA sur le reste du capital de Suez, mais les obstacles sont loin d'être levés, Anne-Laure Jumet.
Suez voit en effet toujours cette opération comme hostile, mais le groupe a-t-il aujourd'hui le choix de la contrer? L'alternative qui aurait pu être portée par le fonds Ardian n'a pu être montée à temps. Le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, avait d'ailleurs déjà fait savoir qu'il ne pouvait attendre une hypothétique offre, alors que celle de Veolia, revue et corrigée, répondait à ses attentes. À présent, le schéma qui est sur la table, poussé par les pouvoirs publics, c'est de faire naître un nouvel acteur de l'eau en France, de taille à rivaliser avec Veolia. Car en cas de succès de son OPA, le groupe d'Antoine Frérot s'est déjà engagé à céder l'activité eau de Suez en France au fonds Méridiam. Mais pour l'État, ce nouveau Suez n'est pas assez dimensionné. D'où des discussions tout le week-end pour demander à Veolia des cessions supplémentaires, notamment à l'international, afin de faire grossir son nouveau rival. À ce jour, Bercy n'a donc pas réussi dans sa tentative de médiation. Mais pour Jean-Pierre Clamadieu, on a aujourd'hui les bases de ce qui pourrait constituer un accord. Pas sûr que la direction et surtout les syndicats de Suez en soient encore convaincus.
Veolia souhaite en tout cas reprendre les discussions dès aujourd'hui, affirmant qu'il ne lancera pas d'OPA sans avoir obtenu un accueil favorable du conseil d'administration de Suez. C'est une première étape et le vote solennel prévu aujourd'hui à l'Assemblée n'est qu'une formalité. Les députés ont bel et bien validé hier l'article de loi qui autorise les producteurs de betteraves à utiliser de nouveau les néonicotinoïdes, ces insecticides surnommés par les écologistes tueurs d'abeilles. D'après les agriculteurs, ils seraient les seuls à même d'enrayer une maladie transmise par le puceron pour les betteraves. D'autres producteurs, d'endives notamment, demandent maintenant cette même dérogation. La Cour d'assises spéciale de Paris a entamé hier les interrogatoires individuels des accusés dans le procès des attentats de janvier 2015. Premier à prendre la parole hier, Willy Prévost. Il a grandi à Grigny, dans le même quartier qu'Amédi Coulibaly. Ensemble, ils se sont livrés à divers trafics de stupéfiants. Willy Prévost est aujourd'hui accusé d'avoir acheté 2 couteaux, 2 gilets tactiques, 2 gazeuses et 1 taser pour le tueur de l'hypercacher, de lui avoir fourni aussi une voiture. C'est vrai, dit-il, mais il ne connaissait pas les intentions du terroriste. Florence Turme nous raconte.
L'interrogatoire se prolonge et Willy Prévost s'énerve. « Mais parlez-moi des trucs que j'ai faits, c'est du n'importe quoi. » Dans les rangs de la partie civile, les avocats ont montré une ancienne photo de lui, barbu, sans moustache, caractéristique esthétique des salafistes, souligne Richard Malka. L'accusé, aujourd'hui chauve et imberbe, enlève son masque. « Ben oui, là j'ai une cicatrice et ça pousse pas, j'aurais été converti, je l'aurais dit. » Il affirme qu'il ne connaissait pas les raisons de la dernière condamnation d'Amedi Coulibaly liée à une affaire de terrorisme. Pas même l'orientation religieuse rigoriste du tueur de l'hypercacher. Dénonce avec virulence les attentats et leurs auteurs, s'adoucit quelque peu aux questions de son avocat Hugo Lévy qui avance déjà ses arguments de plaidoirie en revenant sur les faits quelque peu éludés par le président. Acheter une voiture sur le bon coin à visage découvert, faire des achats répétés dans un magasin fréquenté par les forces de l'ordre, immatriculer une moto au nom de votre mère, vous ne pensez pas que cela fait de vous un bouc émissaire ou un imbécile? Vous seriez un nouveau type de martyr, un martyr carcéral? Willy Prévost rebondit, j'aurais eu connaissance des intentions de Coulibaly, j'aurais jamais impliqué ma sœur, ma mère, sa mère qui témoigne à son tour à la barre, voix traînante, audition difficile, l'air perdu, mais elle se rappelle les menaces d'Amedi Coulibaly venu chez elle à deux reprises, armée. C'était pas l'ami de Willy, ajoute son père, ça n'a jamais été un caïd, Willy. Victime, oui, mais pas caïd.
Florence Turm, dont vous pouvez retrouver les comptes rendus d'audience, les chroniques judiciaires sur notre site franceculture.fr. Un temps pluvieux s'installe ce matin sur toute la France métropolitaine, particulièrement au sud de la Loire, avant l'arrivée d'éclaircies par l'ouest cet après-midi. Ce matin, il fait 11 degrés à Besançon, 12 à Lille, 13 degrés à Paris, 14 à Nantes, 18 degrés à Biarritz et 20 à Aix-en-Provence. Il est 6h40, très exactement. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Et Jacques, nous le disions dans le journal, une nouvelle série de mesures sanitaires entre en vigueur aujourd'hui à Paris et sa petite couronne pour une durée d'au moins 15 jours. Un peu partout, on voit poindre une forme de saturation.
Oui, et ça ne concerne pas que nous, Clara, loin de là. Il n'y a rien de plus permanent qu'un plan temporaire du gouvernement, affirmait l'économiste Milton Friedman, cité par Jean Norberg dans l'hebdomadaire britannique The Spectator, relayé par Courrier International, qui consacre un dossier aux réactions dans la presse, dans le monde, donc face au maintien, voire à l'aggravation des mesures restrictives de nos libertés. Outre-Manche, de nouvelles restrictions ont été annoncées mardi 22 septembre. Pour peut-être 6 mois, le premier ministre britannique Boris Johnson l'a justifié par la nécessité de discipliner, je cite, une population à la nature rebelle, un discours jugé absurde et infantilisant par la presse. Plutôt que de parler des problèmes de la politique de dépistage, le premier ministre préfère rejeter la responsabilité sur la population. En Espagne, autre pays touché par le rebond de la pandémie, les restrictions au commerce et à la liberté de mouvement appliquées depuis 15 jours au quartier populaire du sud de Madrid ont été étendues depuis vendredi à la totalité de ses 3 millions d'habitants et la capitale entièrement bouclée. Là, les réactions ne sont pas seulement populaires, elles sont aussi judiciaires. La justice a par exemple annulé l'interdiction de fumer dans les rues, dont les terrasses de bars. Une mesure finalement validée par le tribunal suprême de Madrid, l'instance de dernier recours. La question se pose dans les 17 régions autonomes qui ont la compétence en matière de santé publique et comme endroit espagnol, toute décision susceptible d'affecter une liberté publique doit être validée par la justice. Les tribunaux sont débordés. Les autorités autonomes marchent tous les jours sur un fil d'équilibriste, souligne le quotidien El País, et elles en sont venues à souhaiter un état d'urgence régional qui leur permettrait d'agir en toute impunité. En Amérique latine, les mesures contraignantes imposées à la population ont incité les gouvernements à renforcer le pouvoir de la police ou de l'armée. L'état d'urgence est en vigueur en Équateur, au Chili et au Pérou. À Lima, une descente dans une fête interdite se solde par la mort de 13 personnes. Dans les pays où les forces armées jouaient déjà un rôle important, le coronavirus est encore venu le renforcer, souligne le politologue argentin Fabien Caillé, cité par El País. pays Brésil, pays où c'est un général qui est à la tête du ministère de la Santé. Eduardo Pazuello est un ancien logisticien de l'armée, sans guère de compétences en politique sanitaire. On ne peut exclure une prise de pouvoir dans ces pays où plane encore le souvenir des dictatures militaires. En tout cas, estime Fabien Caillé, les forces de sécurité vont y gagner des moyens et de l'influence. C'est marrant parce que aujourd'hui, on peut vous envoyer en prison pour non-port du masque, alors qu'en prison, vous n'en aurez pas. C'est ce que ironise l'avocat Sébastien Delorge dans un tweet de l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Il dénonçait l'absence de directive pour le port du masque en prison, à l'exception des parloirs, d'ailleurs supprimés pendant le confinement. Dedans dehors, la revue de l'OIP publie un dossier sur la prison à l'épreuve du coronavirus. Alors que la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention inhumaines et la surpopulation chronique de ces établissements pénitentiaires. Le pays connaissait un nouveau record d'incarcération, souligne Cécile Marcel. Or, chaque prison est un cluster en puissance et si le gouvernement finira par autoriser la libération de 5000 prisonniers en fin de peine, c'est d'abord de la volonté et des efforts des magistrats, variables d'une juridiction à l'autre, qu'a dépendu la baisse de la surpopulation carcérale, d'où une répartition très inégale de ces libérations et des prisons qui sont restés dangereusement surpeuplés. L'Humanité publie un débat sur le capitalisme à l'épreuve du Covid-19 avec trois économistes, Mathieu Plane, Frédéric Bocara et Philippe Aguillon. Celui-ci estime que la crise sanitaire est un révélateur des problèmes des pays capitalistes et il plaide pour le modèle scandinave qui fonctionne au travers d'une articulation entre le marché privé des entreprises, l'État et la société civile. En France, on infantilise, estime-t-il, la population et on muselle la société civile. Le professeur au Collège de France qui dénonce également les insuffisances du dialogue social. Chez nous, c'est « je vous donne une semaine pour réfléchir et je ferai des ordonnances », un peu comme pour les décisions en matière sanitaire. 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Au sommaire aujourd'hui, une nouvelle génération politique est-elle en train d'émerger en Roumanie?
Oui, à 2 mois des élections législatives prévues le 6 décembre, les Roumains et les Roumaines ont renouvelé la semaine dernière leur maire et équipe municipale dans les 3300 villes et villages du pays. Le perdant de ces élections locales, c'est le Parti Social-Démocrate, héritier politique du communisme après la chute de Ceausescu en 1989, et s'il n'y a pas de véritable gagnant, en revanche, une formation politique plus récente et de centre-droit, l'USR, Union pour sauver la Roumanie, a remporté plusieurs villes, dont la capitale Bucarest, et promet de rebattre toutes les cartes politiques en Roumanie. Il est 1h de plus, 7h46 à Bucarest. Bonjour Sylvia Marton.
Bonjour Julie.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques de l'Université de Bucarest et membre correspondant du centre Norbert Elias de l'EHESS. Alors qu'est-ce que c'est cette liste USR, Union Sauver la Roumanie? Qui sont celles et ceux qui l'incarnent, qui ont remporté des municipalités tout récemment, dont Bucarest, la capitale?
C'est un parti, appelé Union bien sûr, mais c'est un parti politique récent, qui en effet capitalise sur les demandes de la société civile des dernières années. C'est un parti qui essaye de promouvoir de nouveaux candidats, de nouveaux visages, et une nouvelle manière de faire la politique, ou une manière différente de faire la politique par rapport aux partis traditionnels. Par exemple, pour la sélection de ces candidats, le parti est assez attentif, vérifiant les CV des personnalités en cause, alors que dans les deux autres partis les plus importants, les partis traditionnels, disons, le Parti social-démocrate ou le Parti national-libéral, par exemple, la fidélité dans la sélection des candidats, c'est ce qui compte, le parcours au sein de l'organisation. L'Union Sauver la Roumanie, USR, a trouvé, pour l'instant assez bien, des personnalités de ce qu'on dit la société civile, souvent des assez jeunes, âge moyen assez jeune, bien formés, souvent à l'Occident, en Occident, mais pas forcément, et dont les CV sont importants, et ce sont souvent des nouveaux, des personnalités, des personnes qui entrent pour la première fois pour faire la politique.
Alors, donc, le, de... le, Le nouveau maire de Bucarest, pardon, Nicoșor Dan, par exemple, lui, alors c'est pas un perdreau de l'année, il s'était déjà présenté deux fois à la municipalité, mais qui est-il, celui qu'on dit le mathématicien à vélo? Lui, il a été formé à Paris.
Tout à fait, c'est un mathématicien, sa profession, mais il a été très actif pendant de longues années déjà. Il est encore jeune, bien sûr, il est jeune, mais en même temps, il a été très actif dans la société civile, concrètement, dans une ONG, à travers une ONG, à Bucarest, donc basée strictement à Bucarest, ayant comme but donc le patrimoine. Préserver le patrimoine historique de la ville contre l'urbanisme sauvage, la destruction des bâtiments historiques et la construction sauvage, donc des bâtiments, des bureaux, etc. Et donc, il a bataillé, il a fait sa carrière publique, avant qu'elle soit politique, sur cette plateforme d'une organisation non gouvernementale, d'une association, pour la lutte pour le patrimoine. Il a remporté un nombre de succès. Il a fait beaucoup de procès à la ville de Bucarest, par exemple. Les différents maires de Bucarest le connaissaient depuis longtemps dans cette capacité donc de contestataire de l'urbanisme à Bucarest. Il a remporté un certain succès, de ce point de vue, donc, sur l'urbanisme à Bucarest. Et ensuite, il s'est lancé pour les élections locales en 2016. Il était assez solo pour l'instant, mais il, comme quelqu'un de nouveau dans la politique, un nouveau visage dans la politique, il a eu certes un vote populaire assez modeste, mais quand même impressionnant pour quelqu'un qui s'était lancé dans la politique sans l'appui d'une structure partisane traditionnelle.
Sylvia Marton, justement, Nicoșor Dan, il dit que Bucarest jusqu'à présent était gérée comme dans les années Ceausescu. Qu'est-ce qu'il restait de la gestion communiste d'il y a 40 ans, d'avant la chute de Berlin, dans cette ville?
Je ne sais pas concrètement, certainement il a plein de choses lorsqu'il fait cette accusation. Encore une fois, c'est quelqu'un qui connaît la manière dont fonctionne la ville du point de vue de l'urbanisme, au sens très large du terme urbanisme, donc pas seulement architectural. Il connaît les centres d'intérêt, les réseaux d'intérêt politique, économique, qu'il... Souvent, il met en accusation. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce type d'héritage qu'il a en vue. Le fait que la ville soit très riche, il le sait. Nous, on le sait, les habitants de cette ville, que c'est une ville très riche, qui a un budget impressionnant. Et que néanmoins, l'argent n'est pas bien utilisé. Il y a trop d'intérêts qui lient la politique, la finance, l'économie ensemble. Des compagnies, par exemple, qui reçoivent des contrats préférentiels, etc., etc. Donc, la liste des pathologies, elle est là, dans une ville très, très riche. Et je pense que c'est à cela, donc, c'est son accusation en général la plus importante, cette politisation de la gestion de la ville, au sens donc de soumettre la gestion de la ville, le management, la direction d'une ville riche, belle et grande, à des réseaux d'intérêts égoïstes.
Alors Sylvia Marton, un des points communs des têtes de proue de l'USR, mais vous disiez que ce n'est pas le cas de toutes, mais beaucoup en tout cas sont nés en Roumanie, y ont grandi, mais sont partis à l'Ouest pour leurs études puis leur carrière, comptent rapporter avec elles, ces figures de proue, disent-elles en tout cas, des arguments à défendre sur le système de santé, le système scolaire, des réformes à entreprendre. Qu'est-ce qu'elle pèse aujourd'hui la diaspora d'Europe de l'Ouest, la diaspora roumaine en Europe de l'Ouest, dans la vie politique roumaine?
La diaspora, elle est significative, et vous avez raison de soulever ce point. En termes de chiffres estimatifs, entre 1,5 million et 2 millions, donc, sont les membres de cette diaspora à travers l'Europe. Mais politiquement, elle pèse très peu, en fait. Elle a pesé à deux reprises pour les élections présidentielles. Nous avons la Roumanie un président élu au vote universel comme en France, donc à deux tours. Et donc pour les deux dernières échéances présidentielles, des élections présidentielles, cette diaspora a pesé de point de vue symbolique, mais également en termes de vote. Mais en revanche, pour les élections législatives nationales, la diaspora a un nombre très limité de députés et de sénateurs, donc de ce point de vue, elle ne pèse pas beaucoup. Et pour les élections locales, pas du tout, parce que si on n'est pas sur place dans le pays, on ne peut pas voter pour les élections locales municipales. Mais symboliquement, cette diaspora, elle y compte pour beaucoup, même si politiquement, Très peu.
Les ONG, par exemple, disent qu'elles travaillent beaucoup plus facilement en Roumanie qu'en Hongrie ou en Pologne parce qu'elles reçoivent beaucoup de dons de cette diaspora roumaine en Europe. Donc l'USR, cette liste Union Sauver la Roumanie, elle a pris beaucoup de voix au Parti Social-Démocrate, l'héritier de l'ancien Parti communiste qui domine la scène politique depuis 1989, la chute de Ceausescu et du communisme. Qu'est-ce qui lui vaut à ce Parti Social-Démocrate cette sanction d'une partie des électeurs, en tout cas dans les villes, je ne sais pas si ça a été le cas dans les petits villages.
Oui, c'est l'acteur le plus important politique depuis 30 ans en Roumanie, c'est le Parti Social-Démocrate, indéniablement, que vous le soulignez, il est l'héritier patrimonial, institutionnel et au niveau du personnel du Parti communiste. C'est le parti le plus puissant. Électoralement, il a un nombre de votes assez constant aux élections locales nationales, sauf en 2016, donc il y a 4 années, lors de la dernière échéance des élections locales, où c'était un raz-de-marée Parti Social-Démocrate. Et ensuite, le Parti Social-Démocrate a remporté les élections législatives avec une majorité très confortable. Donc c'était des scores historiques pour ce parti en 2016. Cette année-ci, comme vous le dites, c'est un échec au niveau assez, si on le compare à 2016, c'est un échec pour le Parti Social-Démocrate. Si on le compare aux échéances précédentes, l'échec n'est pas si grand. Il a quand même autour plus de 30% du vote populaire, donc ce qui est un peu dans le chiffre du Parti Social-Démocrate.
Mais surtout, qu'est-ce qui l'affecte? Voilà, qu'est-ce qui l'affecte? Quels sont les grands sujets? On a vu des dizaines de milliers de Roumains manifester l'année dernière contre la corruption. Est-ce que ce sont des années de scandales de corruption, des volontés de réformer la justice quand il était au pouvoir qui aujourd'hui pénalisent le Parti Social-Démocrate?
Exactement. Donc le Parti Social-Démocrate est dans une crise institutionnelle majeure, une crise où une transition s'est à voir encore. Il est au pouvoir depuis 2012 en fait, il a été au pouvoir depuis 2012. En ce moment, il a encore la majorité dans le Parlement national. Donc c'est un parti qui depuis 8 ans fait la politique roumaine et donc a capitalisé sur, du point de vue très négatif justement, ce que vous disiez. Il a lancé ses parlementaires et ensuite les gouvernements successifs qu'il a contrôlé directement ou en coalition depuis 2012 ont lancé donc des projets de loi. Ils les ont votés même, pas seulement des projets, des lois et ensuite des décrets gouvernementaux pour assouplir la lutte contre la corruption. Et cela a été bien sûr très très mal vu par la société civile, par cette nouvelle génération d'hommes et de femmes qui s'intéressent à la politique et qui veulent faire la politique. Et donc le PCD est devenu le synonyme du parti qui défend les réseaux clientélaires, les réseaux corrompus, sans être le seul, mais en tout cas, dans la perception publique, il est la cible de cette accusation. Il focalise donc un grand nombre de ces accusations, donc le parti qui a mené le combat contre la lutte contre la corruption. Donc le parti qui a été à la proue donc de cet assouplissement de la législation. Mais attention, les autres partis traditionnels aussi, ils se retrouvaient en fait dans cette stratégie du Parti Social-Démocrate d'assouplir la corruption. Donc c'est quand même une attente des autres partis aussi. Mais c'est le PSD, donc les sociaux-démocrates, qui en sont devenus la cible de prédilection, a raison.
Voilà, et donc avec cette volonté qu'avait eu le parti de réformer la justice par ordonnance fin 2016, et les Roumains l'avaient pris comme une mesure opportune pour protéger le chef du parti en procès dans une affaire d'emploi fictif. On verra si les résultats de ces municipales préfigurent les résultats des élections législatives toujours prévues le 6 décembre, sauf si elles sont décalées à cause de la crise sanitaire du coronavirus avec 1400 nouveaux cas déclarés par jour en Roumanie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Sylvia Marton. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques de l'université de Bucarest où vous étiez en direct. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Sur France Culture, au plus près du réel, la série documentaire
Perrine Kervran.
Racisme structurel, politique raciste, racisme d'État. Et si, au lieu de brandir des mots, on regardait ça de plus près, au ras des vies qui ont vécu ces décisions d'État. Du fichier juif mis en place par Vichy, en passant par les stérilisations forcées des femmes et les déplacements arbitraires d'enfants réunionnais, ou la question des statistiques ethniques, comment cohabitent le politique et la notion de race en France? Eh bien, autant le dire tout de suite, ce n'est pas évident.
LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
On veut savoir, Guillaume, quel est ce médicament secret qui a guéri Trump du Covid?
Ben oui, c'est la question que tout le monde se pose, Julie. Comment s'en est-il sorti? Car Donald Trump avait tous les facteurs de risque. C'est un homme, il est âgé de 74 ans, il est bien portant, c'est un euphémisme pour dire qu'il pèse 110 kilos. Et surtout, une bonne partie de la population mondiale ne compatissait pas, mais alors là, pas du tout, à l'annonce de sa maladie. En somme, si les prières fonctionnaient dans un sens ou dans un autre, c'est ce qu'on appelle le mauvais sort, Donald Trump aurait été arraché à notre affection depuis déjà 1000 ans. Mais il n'y a pas que les forces de l'esprit dans la vie, il y a aussi la pharmacie. En matière de pharmacie, Donald Trump a bénéficié d'un traitement pilote des anticorps de synthèse, un cocktail mis au point par une biotech, Regeneron, qui a été testé sur 275 personnes, c'est tout. Si j'en crois, Libération. Alors, Donald Trump a obtenu l'autorisation ou exigé de se voir administrer ce produit qui n'est pas encore approuvé par la FDA, l'autorité américaine de régulation. Rassurez-vous, même si j'ai passé mon diplôme de virologue en mars dernier avec 65 millions de mes camarades de promo, je ne vais pas vous donner mon point de vue sur l'efficacité de ces anticorps de synthèse. En revanche, pour comparer les États-Unis et la France, je vais faire appel à votre mémoire, Julie, même si une bonne mémoire n'a aucune efficacité a priori contre le Covid. Souvenez-vous du président Mitterrand et de sa maladie, un méchant cancer qui avait été caché aux Français pendant une partie de son séjour à l'Élysée. À la fin de son deuxième mandat, tandis que Mitterrand était très affaibli, une polémique éclata pour savoir s'il avait été bien soigné. C'était exactement l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui pour Trump. D'aucuns prétendaient que l'on aurait pu essayer des traitements expérimentaux et même compassionnels sur l'ancien président. Et vous vous souvenez de ce qu'avaient répondu les médecins de Mitterrand ? Le président a été aussi bien soigné que n'importe quel Français. Et je m'étais dit alors que la sécurité sociale, c'était ça, que l'on puisse dire à un peuple qu'il était soigné comme un président, alors qu'aux États-Unis, c'est tout l'inverse. On explique au peuple que le président est soigné comme un VIP. Une manière de rappeler que ce qui a sauvé le corps de Trump est probablement aussi ce qui mine le corps social aux États-Unis.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi les pays d'Asie en général et surtout la Chine s'en sortent mieux que nous contre cette pandémie. Nous serons en compagnie d'Axel Kahn, il est président de la Ligue contre le cancer, et de Christine Ockrent, journaliste et productrice d'affaires étrangères sur France Culture. Il est 7h sur France Culture.